Bonjour, bienvenue à Dans la mire climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Je suis Naomi et je serai votre animatrice pour la prochaine demi-heure. Nous en sommes à notre troisième émission. Donc aujourd'hui, c'est notre premier épisode en 2023. Donc j'en profite là, pour vous souhaiter une bonne année. Et ça veut dire aussi qu'on commence une nouvelle saison. Et quelques changements viennent avec cette nouvelle saison. Je suis toujours en fait avec ma co-animatrice Jeanne.
Allô?
Mais nous accueillons une nouvelle collaboratrice à notre émission. Donc, Annabelle.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Annabelle. Je suis étudiante au baccalauréat en sciences politiques. Puis, je suis une collègue, en fait, de Naomi et de Jeanne à l'OREV, donc l'Observatoire de recherche sur l'économie verte. Puis, mon but, en fait, c'est de me spécialiser sur les politiques environnementales au Québec.
Donc, merci, Annabelle, de joindre à nous. Ça nous fait super plaisir d'avoir une nouvelle collègue. Annabelle, tu remplaces notre collègue Marie-Félix, qui est partie, en France, là, pour une session à l'étranger. Donc, on lui souhaite des belles aventures, là, en passant. Sauf qu'on s'ennuie d'elle, mais on est contente de t'avoir avec nous. Je pense que ça va être vraiment une belle contribution à notre équipe. Tout ça pour dire, en fait, qu'on reste une équipe de trois étudiantes en sciences politiques. Et pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent un peu moins, notre émission se concentre sur les enjeux de justice climatique. Et si vous êtes intéressés à nous écouter et à écouter en fait nos deux premiers épisodes, tout est disponible sur Spotify et sur le site Internet de Balado Québec. Donc maintenant, on revient sur l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des responsabilités intergénérationnelles concernant les changements climatiques. Donc, plus précisément, les responsabilités et les devoirs qui lient les générations ensemble, et plus particulièrement ceux qui nous lient aux générations futures. Donc, en fait, la principale question qu'on va se poser, c'est si on doit quelque chose aux prochaines générations, si on leur doit, si on doit leur laisser ou leur léguer quelque chose. En d'autres mots, on veut savoir en fait si on a des devoirs concernant les générations futures. Comme ça, ça a l'air d'une question assez large, en fait, donc qui peut s'appliquer à plusieurs secteurs, notamment au système d'éducation, au système de santé. Mais vu la thématique de l'émission, on va se concentrer uniquement sur la lutte au changement climatique pour savoir si on doit agir aujourd'hui concernant les changements climatiques pour préserver le futur, pour offrir un environnement décent aux générations futures qui vont nous succéder. Je vais donc laisser la parole à Jeanne pour nous expliquer en fait en détail le sujet, puis nous expliquer aussi les concepts théoriques qui sont la base là, de cet enjeu-là.
Donc en effet, donc aujourd'hui, on se penche là, sur les responsabilités intergénérationnelles. Donc c'est une question qui suscite évidemment là, beaucoup de débats, mais habituellement, quand on est en faveur de la lutte au changement climatique, on reconnaît là, que ceux-ci vont affecter les générations suivantes. Vos enfants, vos petits-enfants, mais aussi là, à une échelle là, beaucoup plus grande, là, donc des générations qu'on ne va pas nécessairement là, côtoyer de notre vivant. Donc, maintenant, à savoir si on a une raison d'agir aujourd'hui, puis si ça, en fait, ça en fait une, bien, je crois que ça demande un choix personnel, évidemment, qui peut susciter beaucoup de débats sur lesquels on va peut-être passer un peu plus vite aujourd'hui. Parce qu'évidemment, du fait qu'on a un balado sur la justice climatique, bien, vous comprendrez qu'on a un biais là, en faveur de ces devoirs-là, donc... pour les générations futures. Donc, plutôt que s'arrêter là, à tous les débats philosophiques sur la question de savoir s'il existe ou non des débats, qui sont peut-être un peu moins passionnants à discuter là, à la radio un mardi matin, on va plutôt là, discuter des trois grands motifs pour expliquer les responsabilités intergénérationnelles et pour justifier là, l'urgence d'agir là, dès maintenant pour les changements climatiques. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a trois... motivations là, habituellement là, qui sont comprises dans cette responsabilité-là là, envers les générations futures. Le premier, c'est le principe de précaution. Je pense que ça, tout le monde là, en a entendu parler dans sa vie. Ça ne s'applique pas juste au changement climatique. Dans le fond, c'est que dans l'incertitude des impacts et des conséquences, on doit agir là, toujours dans la crainte de ce qui pourrait arriver, mais aussi du fait que lorsque la certitude arrivera, il va peut-être être trop tard pour agir. Donc, c'est un peu là, un principe de grand-mère. Là. En fait, comme dirait la mienne, vaut mieux prévenir que guérir. Si on passe sinon au second, bien, c'est le raisonnement économique. Donc ça, là, pour les pragmatiques qui nous écoutent, donc le calcul économique, c'est qu'au final, les coûts de l'action aujourd'hui sont bien moins chers que les coûts de l'inaction plus tard. Donc, agir aujourd'hui, oui, ça va coûter, ça va avoir des frais pour les citoyens, pour l'État, pour les compagnies privées. Mais au final, les frais qu'on va payer aujourd'hui, sont insignifiants ou presque par rapport à tout ce qu'on devrait payer en termes d'adaptation plus tard si on avait à faire face à toute l'ampleur là, que peuvent prendre les impacts du changement qu'engendrait là, une perturbation du climat planétaire. Donc, à ce niveau-là, justement, je fais une petite suggestion. Alors là, c'est ma capsule suggestion externe. Je vous invite à jouer au Climate Game du Financial Times, dont on mettra le lien, là, évidemment, sur notre page Facebook. C'est, dans le fond, une simulation qui vous permet d'être l'acteur supra-étatique, donc comme le chef de la planète entière, qui manœuvre pour lutter contre les changements climatiques avec des ressources disponibles. Donc, vous avez des points, puis tout ça. Puis, il faut que vous soyez en mesure de rester en bas de 1,5 degré d'ici 2050. Dans le jeu. Ça dure pas longtemps, là, mais quand même, c'est, je pense, une simulation qui est assez réaliste au niveau, justement, du calcul des coûts économiques là, que ça implique lutter contre les changements climatiques. Donc, le lien, évidemment, comme j'ai dit, sera disponible. Et finalement, là, pour le troisième motivation, donc l'argument qui est plus normatif, donc les droits et devoirs, donc pour ceux qui ont l'âme de chevalier, donc... Les droits humains, bien évidemment, c'est un droit de tous d'avoir un environnement viable. Et donc, ça s'applique également aux générations qui vont nous succéder, qui seront, étant donné qu'ils sont des humains, eux aussi, ont le droit à ces droits. Donc, les devoirs qui sont impliqués là, par cette affirmation-là, ben c'est le fait qu'il ne faut pas nuire aux possibilités des générations futures de vivre convenablement. Donc, il faut s'assurer que les droits humains peuvent perdurer, là, même après notre génération. Donc, au final, il y a une justification pour tous. Tous les genres de personnes et de raisonnements là, peuvent être représentés dans ce trio-là. Mais est-ce qu'il y en a un qui vous apparaît plus convaincant que l'autre? Je pose la question, évidemment, à mes collaboratrices. Mais posez-vous la question aussi à la maison.
Oui, ben c'est une bonne question. Ben je dirais le principe de précaution. Ben surtout là, quand on parle de grand-mère, ils ont souvent raison. Puis c'est vrai que mieux vaut prévenir que guérir, ben, c'est quand même un bon argument. Non, mais sérieusement, en fait, je pense que tous ces principes-là, justement, ont vraiment leur raison d'être. Puis ils s'attaquent vraiment à des points différents. Mais c'est sûr que le principe de précaution, moi, je pense que c'est ce qui me convainc plus, là, quand même. Est-ce qu'Annabelle, tu as une position sur le sujet?
Oui, mais moi, je vais y aller avec le cœur de chevalier. Donc, l'argument normatif des droits et des devoirs, plus sérieusement, je pense que c'est primordial que les générations futures aient les mêmes droits, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités que nous, on a la chance d'avoir. Puis pour ça, ben, c'est nécessaire qu'on préserve un environnement qui est viable pour ces générations-là.
Mmh. Bonne réponse.
Oui, puis je pense qu'en fait, ce raisonnement-là là, prend de plus en plus d'ampleur. Parce qu'évidemment, peu importe le raisonnement que vous préférez, c'est correct tant que c'est une motivation là, pour vous à agir. Mais reste que ce qu'on se rend compte, c'est que maintenant, les responsabilités d'action, ben, elles chevauchent, les générations sont de plus en plus pressantes parce que les effets des changements climatiques se font déjà sentir. Donc, on ne parle pas d'une génération là, que vous ne verrez jamais de votre vivant. On parle de vos enfants, vos petits-enfants qui sont peut-être déjà en vie en ce moment ou que vous allez avoir là, dans les prochaines années. Et même si ce ne sont pas vos enfants, là, ou vos petits-enfants, ça reste des gens que vous allez côtoyer, donc qui vont grandir avec vous. Je pense qu'évidemment, le Québec, on s'est quand même doté là, d'infrastructures puis d'institutions qui font que vous ayez une progéniture ou non. On a fait un choix de société qu'on est tous ensemble responsables de l'avenir de la jeunesse. Donc, je pense que c'est là que ça devient le plus pressant, la lutte au changement climatique, parce qu'on se rend compte que c'est plus l'abstrait, c'est plus le lointain ou l'hypothétique, c'est maintenant, c'est les jeunes qui rentrent à la maternelle cette année, c'est même si c'est des enfants plus vieux, ben nous, par exemple, nous qui sommes dans le début vingtaine, il y a des fortes probabilités là, qu'on vive les changements climatiques. Donc, voilà. Puis même si vous êtes plus vieux, donc par exemple, si vous êtes de jeunes retraités, peut-être que vous vivrez, vous aussi, là, une partie des changements climatiques. Donc, au final, là, c'est pas quelque chose que vous ne verrez pas de votre vivant. Au contraire, ça se passe maintenant et demain. Donc, voilà. Donc, ce sentiment là, d'urgence-là amène plusieurs nouvelles initiatives, oui, de lutte au changement climatique, que ce soit dans l'atténuation ou dans l'adaptation, mais aussi en matière légale, pour ceux que ça intéresse. Donc, il y a plusieurs organismes, mais aussi des penseurs, des chercheurs universitaires, là, qui réfléchissent au fait de criminaliser les dommages à l'environnement pour s'assurer là, justement là, qu'on respecte ce principe de responsabilité-là intergénérationnelle, notamment à travers ce qu'on appellerait l'écocide, qui deviendrait là, un crime contre l'humanité, là, au même titre, par exemple, que le crime de génocide. Vous voyez la racine, là, évidemment, là, dans les deux mots. Donc, ça viendrait à pénaliser là, de manière légale les actions d'entreprise ou de gouvernement qui font des dommages à très grande ampleur sur l'environnement, qui sont de nature irréversible ou qui ont des conséquences importantes sur la vie humaine et le patrimoine commun de l'humanité. Parce qu'évidemment, c'est des acteurs, là, on cherche à être capable d'incriminaliser des acteurs qui sont difficiles à poursuivre en justice, notamment les gouvernements. Puis les entreprises multinationales là, qui ne sont pas restreintes là, à des cadres temporels ou spatiaux, évidemment. Faut pas oublier, notamment, là, on parle de responsabilité intergénérationnelle, on n'a pas oublié les responsabilités intragénérationnelles. Mais on pense que ça peut être complémentaire en construisant des institutions qui sont bénéfiques aux générations qui sont existantes en ce moment. Ben, on s'assure d'avoir des institutions, des infrastructures qui sont viables dans le temps et qui peuvent ensuite être profitables pour les prochaines générations. Mais voilà. Mais on sait là, que la pensée pour les générations futures, elle peut être angoissante. Je pense qu'on le voit bien avec la vague d'éco-anxiété, particulièrement chez les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes, en plus, là, qui se sentent concernés puis, et anxieux. Je pense que l'anxiété, là, c'est le mal de notre temps. Moi, ça me secoue beaucoup, là, en fait, l'éco-anxiété. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu faire ce balado, pour peut-être apaiser ce sentiment d'urgence qui m'habite. Mais aussi pour conscientiser le public, il fallait passer à l'action. Parce que, et là c'est mon positionnement politique, j'en fais pas souvent, je suis gênée d'en faire, mais là, je me suis dit qu'il fallait parfois se mouiller. Parce qu'en fait, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas la jeunesse de porter ce poids-là, ce fardeau-là. La jeunesse, là, je parle en ce moment des jeunes, donc ceux qui sont primaires ou secondaires. La seule chose qu'on devrait leur demander, c'est de vivre, c'est d'en profiter. Je pense que c'est des belles années. Ben, ça devrait, en tout cas, des belles années. Et là, on m'excusera pour la référence à la culture populaire, là, mais moi, ce constat-là, ça m'a particulièrement frappé quand j'ai écouté le film Interstellar à l'âge de 17 ans. Très, très, très marquant, à mon avis. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais Cooper, qui est le personnage principal incarné par Matthew McConaughey, dit, et là, je cite en anglais, là, je vous traduirai après. « No, when you become a parent, one thing becomes really clear, and that's what you want to make sure your children feel safe. And that rules out telling a 10 years old that the world's ending. » Donc, au final, c'est qu'on ne devrait pas là, dire à nos enfants, dans le fond, qu'on est dans une situation catastrophique. C'est à nous d'agir. C'est pas de faire porter le poids aux générations futures de gérer là, tout le poids, le fardeau émotionnel que ça représente. Donc, ça résume bien ce que je pense. Je pense que devenir adulte, c'est se préoccuper des questions qu'on aborde ici pour que les plus jeunes n'aient pas à se sentir anxieux, démunis, laissés à eux-mêmes ou abandonnés. Puis le rôle des gouvernements, c'est là mon positionnement politique. Attention, c'est de s'assurer que les citoyens ne se sentent pas comme ça. Et ça, si on me le permet aujourd'hui, je vais le dire, c'est que nos gouvernements, ils l'échappent. Je pense qu'il est temps que l'État se rappelle de son rôle, c'est de se préoccuper du bien commun et du bien de ses citoyens avant les intérêts de qui que ce soit d'autre. Et notre intérêt en tant que citoyen, c'est de vivre pleinement en santé dans un environnement sain, d'avoir les chances de se développer et de pouvoir espérer la même chose pour nos enfants, mais pas juste de l'espérer, d'avoir la certitude qu'ils vont vivre minimalement aussi bien que nous, si c'est pas plus. Donc, appel au gouvernement du Québec et au gouvernement canadien. Je pense que c'est le temps là, de revoir là, le rôle de l'État en termes de lutte au changement climatique. Donc là, j'ai pris un ton grave pendant quelques instants, mais je tiens à revenir sur la question de l'éco-anxiété. Là. Pour ceux que ça angoisse beaucoup les changements climatiques, je vous invite à peut-être vous tourner vers le journaliste de solutions. Je pense que parfois de voir que les communautés, les villes, les organismes, les municipalités font beaucoup d'efforts, là. Je pense que ça peut parfois là, remettre les choses un peu à bonne place à l'intérieur. Puis pour ça, je vous recommande L'Avenir nous appartient, qui est sur les ondes de Télé-Québec tous les mardis soirs, évidemment disponible en ligne. C'est du journaliste de solutions, c'est porteur d'espoir, ça fait du bien. Puis porté par deux femmes également, donc on leur lève notre chapeau. Là, voilà.
Ben merci, Jeanne. Mais bon, là, tu parlais d'un ton grave et tout, mais je pense que c'est important des fois de prendre ça un peu plus au sérieux pour justement... comprendre la nécessité de passer à l'action. Puis, ben c'est sûr aussi qu'on est une émission qui se veut un peu plus positive, justement. Notre but, c'est pas d'augmenter l'éco-anxiété, mais bon, les discours comme ça, les statements, comme tu viens de faire, sont importants aussi à faire. Mais encore une fois, merci pour tes suggestions. On va les mettre sur la page Facebook, comme tu as dit, un peu plus tôt. Donc, vu que c'est notre premier épisode de l'année 2023, on s'est dit qu'on allait changer un peu les choses. Habituellement, on fait des actualités climatiques, mais aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur les défis climatiques pour 2023. Donc, en fait, on parle souvent des défis, des résolutions pour une nouvelle année, mais on va le faire sous l'angle des changements climatiques et des enjeux climatiques. Donc, à quoi on doit s'attendre, en fait, en termes d'action climatique et quels événements, enjeux ou phénomènes on doit retenir ou on doit s'attendre pour la prochaine année. Donc, Annabelle, je te laisse la parole pour ça.
Oui, donc, pour ce qui a trait aux principaux défis climatiques pour l'année à venir, je pense qu'il est primordial de commencer avec le plan fédéral. Il faut savoir que le Canada est encore loin du compte quand il est question de réduction de gaz à effet de serre. Si tous les humains de la planète émettaient autant de GES par habitant que les Canadiens, les émissions mondiales seraient 10 fois trop élevées pour limiter le réchauffement à un seuil viable. De 2016 à 2020, la moyenne des émissions par Canadien s'élevait à 19,4 tonnes par année, soit 4 fois la moyenne mondiale. Cela pour vous illustrer, c'est comme l'équivalent de faire environ 200 fois Québec-Vancouver en voiture chaque année par personne.
Mm.
Notre premier ministre Justin Trudeau s'est doté d'une cible de réduction de 40 % de nos émissions d'ici 2030. Le ministre canadien de l'Environnement, Stephen Guilbeault, désigne cette cible comme étant à portée de main et réaliste. Mais en 2023, cette cible est-elle réellement à portée de main et réaliste? Eh bien, la réponse, c'est qu'avec nos politiques actuelles, c'est non. Le Climate Change Performance Index indique que le Canada n'est toujours pas sur la voie d'une réduction de l'exploitation pétrolière et gazière, qui est pourtant cruciale pour l'atteinte de nos cibles. En fait, de 1990 à 2020, la production des sables bitumineux canadiens a connu une augmentation de 725. Cette industrie a enregistré aussi une hausse de 430 de ses GES durant la même période. Ainsi, on peut dire que la piètre performance canadienne nous a vraiment placés en arrière des autres quand il est question de nos engagements et de nos politiques climatiques. Mmh. En 2022, le gouvernement a publié son plan de réduction des émissions pour 2030. Il prévoit d'importants investissements pour réduire nos émissions dans divers secteurs, dont celui du transport. Par contre, par communiqué, le ministre Guilbeault a indiqué que des mesures supplémentaires pour la réduction des GES seront annoncées en 2023. Il a notamment mentionné une mesure de plafonnement des industries du pétrole et du gaz. On attend donc avec impatience ces politiques climatiques en 2023.
Mmh. Donc, on a quand même beaucoup à faire au niveau fédéral, je dirais. Jeanne?
Oui, et j'aimerais attirer l'attention des auditeurs. On va essayer de suivre le ministre Guilbeault puis le premier ministre Trudeau qui ont promis la fin des subventions aux énergies fossiles au Canada en 2023. Donc, on attend toujours des nouvelles, messieurs. Savoir quand ça va être en place.
Exactement. Ben, en fait, c'est intéressant, ça aussi. On va suivre ça. Maintenant, sur le plan mondial.
Oui, donc, sur le plan mondial, les défis sont nombreux. On peut penser, évidemment, aux feux de forêt, dont les épisodes sont de plus en plus fréquents et inquiétants, à la déforestation, à la perte de la biodiversité, à la pollution de l'air et à toutes les autres catastrophes naturelles dont la prévalence ne fait qu'augmenter avec la crise climatique. Mais un point tournant en 2023, c'est la guerre en Ukraine. Bon, on en parle souvent, mais on va le répéter, cet enjeu-là est décisif pour plusieurs autres enjeux. C'est aussi décisif pour la transition énergétique globale. En fait, la raison, c'est que le contexte inflationniste mondial, occasionné par la guerre en Ukraine, comporte le risque de limiter la pression de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut toutefois le mentionner, depuis l'invasion en Ukraine par la Russie en 2022, la transition énergétique vers des énergies renouvelables s'est accélérée, et ce, particulièrement en Europe. La position dominante de la Russie sur le marché énergétique mondial a été ébranlée et les énergies renouvelables ont pu bénéficier de ce bouleversement. Cependant, puis c'est ça qu'on va devoir surveiller en 2023, certains pensent que les gouvernements vont accorder une priorité à la sécurité énergétique et à l'accessibilité aux énergies à court terme par le biais des énergies fossiles au lieu d'investir dans la transition énergétique. Pour résumer, Le lien entre le climat et l'inflation en 2023 sera crucial. Le contexte dans lequel nous nous trouvons pourrait être un frein à l'action climatique alors que nous sommes à une époque charnière de la lutte contre les changements climatiques. Or, il faut souligner que même si on a eu tendance à opposer économie et énergie renouvelable, en 2023, c'est plutôt les énergies fossiles qui deviennent incompatibles avec la croissance économique. Ça vient d'ailleurs rejoindre l'argument que Jeanne nous avait présenté tantôt, l'argument économique. En effet, les bénéfices économiques des énergies vertes ne cessent de croître. L'énergie solaire et éolienne, par exemple, deviennent moins chères que celles issues du gaz et du pétrole. On peut donc croire que les bénéfices des énergies renouvelables dépassent ceux des énergies polluantes. Puis à cela, s'ajoute le fait que les coûts à long terme associés aux GES et à leurs conséquences désastreuses pour nos sociétés sont de plus en plus importants. Parmi les autres événements à surveiller en 2023, on retrouve évidemment la COP28 qui se déroulera en novembre prochain aux Émirats arabes unis, qui est le pays qui se retrouve au 7e rang du plus grand producteur de pétrole. Ça, c'est sans compter que le pays est le 5e plus gros émetteur de CO2 par habitant de la planète. D'ailleurs, on a eu la confirmation la semaine dernière qu'un magnat du pétrole sera le président de la prochaine conférence des parties. Donc, c'est officiel. Celui qui a été nommé à la tête de la COP28, c'est un PDG d'un géant pétrolier émirati. L'homme en question, vous m'excuserez pour la prononciation, le sultan Ahmed Al-Jaber,
c'est un... pire. Correct. Oui.
C'est un ministre des Émirats arabes unis, mais c'est également un patron de la compagnie pétrolière nationale et le représentant climatique du pays auprès de l'ONU. Ça sera donc intéressant de voir l'impact du pays hôte de la conférence sur, en fait, l'agenda de la COP ainsi que sur ses résultats.
Mais c'est déjà qu'on a un peu des doutes, en fait, sur l'efficacité puis l'importance de ces organisations-là comme les COP. La nomination de cet homme, ça crée encore plus de cynisme, d'ironie. Fait que c'est quelque chose à surveiller aussi. Jeanne, t'as sûrement une opinion là-dessus.
J'ai toujours des opinions. Non, mais je pense qu'après l'échec de l'Égypte à la dernière COP, je pense qu'on est premièrement on est déçus du pays hôte, mais je pense que on a comme un recul qui se fait en nommant cet homme-là à la tête. Comme président, parce qu'on sait que dans les COP, c'est quand même le président qui s'assure qu'on arrive à un accord final.
Ouais.
Donc, c'est quand même une responsabilité qui est importante, portée par quelqu'un qu'on ne sent pas nécessairement de volonté de réussir à avoir un accord.
Non, c'est ça.
Surtout que depuis plusieurs années, on évite de parler d'énergie, de pétrole. En fait, on mentionne pas le fait que le pétrole est responsable des émissions dans aucune des accords qui sont finalisés dans ces conventions-là. Donc, c'est sûr qu'avec cet homme-là, c'est pas quelque chose qui va se régler. L'éléphant dans la pièce va rester toujours confortable, pour citer M. Gaïevitch Saïeg que j'ai vu aujourd'hui.
Mais oui, c'est ça. On voit quand même l'influence des compagnies pétrolières, mais aussi de certains gouvernements qui ont quand même un impact sur la transition, mais l'efficacité de la transition. Donc, c'est à voir, oui, Annabelle.
Même quand on parle d'impact des pétrolières à la COP27, en Égypte, le Canada était un des pays avec la plus grande délégation de représentants du secteur pétrolier.
Oui. Impressionnant, gênant. J'allais dire impressionnant dans le bon sens. Gênant, je pense que c'est le bon terme. oui, c'est ça. Bon. Pas beaucoup d'espoir pour ceci, mais à surveiller quand même. On va continuer de regarder ces organisations internationales. Puis pour finir, plus au niveau provincial, qu'est-ce qu'on surveille cette année?
Oui, donc pour terminer, j'ai choisi de vous parler de deux dossiers législatifs à garder à l'œil pour le Québec en 2023. D'abord, une stratégie sur la réduction du plastique a été développée au Québec pour réduire l'utilisation du plastique à usage unique et encadrer l'utilisation ainsi que la fin de vie des produits du plastique. On le sait, le fédéral a légiféré à ce sujet en automne dernier, mais la stratégie provinciale a été retardée avec la pandémie. Puis, en 2023, on espère que le gouvernement du Québec emboîte le pas à Ottawa. Donc, un autre dossier, en fait, c'est sur la gestion de nos déchets et l'élargissement de la consigne au Québec. Donc, en fait, il faut savoir que la consigne élargie devait entrer en vigueur à l'automne 2022. mais elle a été repoussée d'un an. Ce qu'il faudra particulièrement surveiller, ce sont les pressions de l'industrie du plastique auprès du gouvernement pour la mise en œuvre de l'élargissement de la consigne. En fait, l'industrie du plastique voudrait reporter encore la consigne élargie à 2025.
Est-ce que tu connais les raisons pour cette demande?
Non, je ne connais pas les raisons particulières, mais selon moi, ils ont quand même intérêt à retarder l'arrivée de la consigne puisque eux se font de l'argent en produisant des produits du plastique.
C'est surtout que la consigne, habituellement, là, au Québec, on a un principe, c'est souvent la responsabilité du producteur de notamment de produire là, quelque chose qui peut être réutilisé ou tout ça. Puis en tout cas, il y a des frais pour les industries là, quand il faut consigner leurs produits.
Okay.
Donc évidemment, ça fait des coûts supplémentaires pour eux. Puis ça peut faire qu'ils vont augmenter les coûts de leurs produits, qu'ils vont devenir moins compétitifs sur le marché comparé à d'autres qui ne sont pas consignés.
Okay.
Donc bref, évidemment, à suivre.
Oui, ben merci pour les clarifications. C'est vraiment une vraie question que je me posais. Mais oui, ben justement, les actions climatiques du gouvernement de François Legault, ben c'est sûr que la pandémie a pris beaucoup de place dans le dernier mandat. Il s'est pas passé beaucoup de choses au niveau des actions climatiques, donc on s'attend à plus là, durant ce nouveau mandat. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup. Ah, ben oui, Annabelle. Jeanne, quelque chose à rajouter?
C'est juste pour dire... On a fait un bilan pour l'instant, pour l'année 2023. Bon, peut-être que ça a l'air un petit peu négatif pour le moment, au sens où il y a quand même plusieurs choses à surveiller puis qu'on se méfie un petit peu. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'au final, 2023, ça peut être une année charnière. On a la chance de changer de direction. C'est à nous là, de tenir nos gouvernements responsables de leurs actions. Voilà.
Mmh. Bon. Ben, super. Merci pour ce dernier point-là. Puis merci beaucoup, Annabelle, pour ces actualités et ces défis climatiques. Donc, on va rester à l'affût là, pour tout ce que tu viens de mentionner dans la prochaine année. Donc, c'est déjà la fin de notre émission là, qui portait sur les responsabilités intergénérationnelles. Je vous rappelle que si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook, qui est le nom de notre émission, Dans la mer climatique, et aussi par courriel à l'adresse danslamerclimatique@commercialoutlook.com. Nous allons aussi mettre les deux suggestions là, de Jean. Je t'en avais tout. Deux?
Ouais, deux, exactement. Oui, je crois deux.
OK, parfait. On va mettre ça dans une publication là, sur notre page Facebook si le sujet vous intéresse et si vous voulez aller un peu plus loin là, sur la question. Donc, pour finir, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute de Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. À bientôt!